Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Angle Mort. Et aujourd'hui, j'aimerais que l'on discute d'un sujet qui doit être très cher à beaucoup d'entre vous. C'est le catalan, la langue catalane plus spécifiquement. Et oui, parce que même si aujourd'hui le catalan est reconnu comme une langue officielle en Espagne, ça n'a pas toujours été le cas. Et pour nous éclairer sur le sujet, j'ai convié Julia Ferrer, professeure de catalan au LFP. Bonjour, bienvenue dans mon émission. Je suis ravie de vous recevoir.
Bonjour, merci beaucoup.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment la dictature a contribué à la diminution, voire au déclin de l'usage du catalan ?
Oui, bien sûr. Elle a contribué beaucoup, c'est-à-dire tant dans le public, surtout dans le public, parce qu'il y a une interdiction de son usage partout, en écrit, dans la littérature, dans la culture, dans l'école, au commerce, absolument partout. Et à l'oral, pas tellement, parce qu'en fait, même s'ils auraient essayé, ça aurait été difficile d'empêcher les gens de parler en catalan chez eux. Il n'y avait pas de caméra. Mais de toute façon, ça a eu aussi des implications. Par exemple, si on n'a pas une langue à l'école et la langue en présence, toujours au public, c'est une autre. La langue qu'on parle, le catalan dans ce cas, il prend des tournures qui ne sont pas absolument correctes. Et il y a aussi une question de valorisation de sa propre langue. Quand on voit qu'on ne peut pas faire de la littérature, on ne peut pas faire de la haute culture dans ta langue, il arrive un moment où tu penses que ta langue n'est pas valable pour ça. Et il est vrai qu'il y a eu des moments dans l'histoire où c'est presque arrivé, c'est-à-dire les gens, ils commençaient à se questionner si leur langue était vraiment une langue valable. Mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement avec Franco que c'est arrivé, il y a des précédents. Par exemple, en 1714, c'est des situations absolument parallèles. C'est-à-dire, avant 1714, la Catalogne, je ne parle pas en général de toute la péninsule parce que on aurait pour des heures à expliquer. Mais je parle en Catalogne, et nous avions des institutions propres, nous avions des lois, nous avions un parlement qui votait ses lois, qui choisissait ses délégués, et nous avions bien sûr une langue. En 1714, c'était en fait une guerre de succession. Il y a eu deux rois qui voulaient, deux aspirants à rois qui voulaient prendre le trône. Et il y a eu une guerre parce que la Catalogne, elle était pour un, et le reste de la Castille était pour un autre. Et c'était deux modèles d'État complètement différents. Le Bourbon était le roi que voulaient les Castillans. Il était absolument centraliste, autoritaire. Et le roi que voulaient les Catalans et d'autres, pas seulement les Catalans, aussi les Aragonais, les Valenciens, etc. Il était beaucoup plus démocratique, beaucoup plus respectueux avec les différences. Il y a eu une guerre. C'est le roi Bourbon qui a vaincu. Et dès qu'il est arrivé ici au pouvoir, il a commencé à faire la même chose qu'a fait Franco, interdire le catalan au public et essayer de faire que ce soit une langue qui à la longue pourrait être perdue. Parce que le fait, c'est que les États qui sont centralistes, ils voient dans les différences culturelles une atteinte au pouvoir. Ça fait qu'il est beaucoup plus difficile l'exercice du pouvoir. Et donc, après tout ça, comment est-ce que le catalan est réapparu et a repris du pouvoir ? En fait, c'est au 19e siècle, à la fin du 19e siècle. On dit, les personnes qui étudient l'histoire de la langue, ils disent que ça a été un miracle. Sincèrement, parce que vraiment, on était arrivé à une situation où le catalan, il était vu comme une langue seulement folklorique, soi-disant. Mais grâce au mouvement du romantisme en Europe, qui est arrivé aussi ici, il y a deux choses que les romantiques préconisaient. D'un côté, c'était le retour au passé médiéval, et de l'autre, c'était la valorisation de la culture populaire comme signe d'identité. Alors quand ici, les intellectuels, ils ont commencé à voir ces idées-là, à comprendre, ils se sont dit, mais notre langue, notre culture, à l'époque médiévale, c'était une culture absolument normale avec des écrivains de premier rang. Notre culture populaire, elle est absolument très riche. Nous avons des chansons, nous avons des contes à l'oral, il y avait de tout. Et ils ont commencé à prendre la conscience que le catalan avait aussi la possibilité d'être une langue de culture. Alors, ils ont récupéré le catalan pour la littérature, les écrivains qui, en fait, ils écrivaient en espagnol parce que c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire, avec la seule langue avec laquelle ils pouvaient publier. Ils ont changé directement. Ils se sont mis à écrire en catalan. Au début, c'était compliqué. Il n'y avait pas une grammaire qui était établie. Il n'y avait pas un dictionnaire. Ils se sont mis à faire tout ça. Il y a eu des dictionnaires, il y a eu Pompeu Fabra qui a commencé à travailler sur la grammaire et ça a fait la base pour la postériorité. On était vraiment dans une très bonne voie.
Merci, c'est super intéressant. Moi, je voudrais juste ajouter que donc plus tard, ce sont les lois franquistes qui ont re-oppressé le catalan et on a donc le 5 avril 1938, la fin du statut d'autonomie de la Catalogne dont Julia nous parlait. Cette loi qui interdit l'apprentissage du catalan dans les écoles, le catalan n'est donc plus une langue officielle en Espagne et les gens sont forcés d'apprendre le castillan systématiquement. Et de plus, on a un retour de la stigmatisation du catalan et des catalans en tant que peuple. Et les catalans sont même apostrophés dans la rue. Il y a un article très intéressant qui explique qu'il y avait énormément de gens espagnols qui apostrophaient les catalans dans la rue en leur disant « Arrête de parler tes balivernes, arrêtez cette langue qui n'a pas de sens ». Et d'ailleurs, Franco le disait aussi lui-même. Mais donc moi, j'aimerais qu'on se questionne sur l'apprentissage du catalan dans les écoles. Comment est-ce que les Catalans, qui n'étaient pas autorisés à apprendre le catalan, vivaient l'apprentissage de la langue ?
D'abord, je reprends un peu plus en arrière pour voir vraiment le contraste qu'il y a eu quand Franco est arrivé ici, dans l'enseignement. Juste avant Franco, il y avait l'époque la plus démocratique de l'histoire de l'Espagne. C'était, bon, à part cette, l'actuelle, la Deuxième République. C'était des années où vraiment il y a eu des élections, les gauches ont été élues partout, c'était des élections municipales, mais même ça, ça a fait que le roi il soit à l'exil. C'est-à-dire on a mis à la porte la monarchie pendant quelques années, et ça c'était les années 20, 30, jusqu'au 36, jusqu'à Franco. Alors cette époque-là, il y avait vraiment, en Catalogne, on avait repris nos institutions, il y avait le statut d'autonomie. Le catalan à l'école, il était dans les écoles privées, parce qu'en en fait on était dans l'État espagnol, et les écoles publiques, elles étaient en espagnol. Mais il n'y avait pas d'interdiction pour le catalan, et il y avait beaucoup par exemple de publications, beaucoup de journalistes. C'est l'époque où les journalistes, ils ont été les plus importants journalistes catalans. Ils datent de cette époque. Alors, cette école catalane que la Generalitat avait essayé de commencer à impulser, c'était quoi? C'était des écoles absolument progressistes, avec une méthodologie d'école active, avec les filles et les garçons ensemble. C'était la première fois que ça arrivait. On essayait la libre pensée. Quand Franco est arrivé, tout ça, absolument juste le contraire. C'était quoi? L'autoritarisme, la religion partout, l'idéologisation. Ils devaient chanter les hymnes fascistes au moment de la récréation. Ils ont encore séparé les garçons et les filles. C'était un choc brutal, un choc brutal. Ils ont dépuré les enseignants qui étaient des enseignants de la République, où ils ont été virés. Ils ont apporté des professeurs du reste de l'Espagne, parce que comme ça c'était bien, parce qu'ils ne savaient pas le catalan, ils ne pouvaient pas l'utiliser. Bon, en fait, ça n'a pas été quelque chose de brusque, c'est impossible, c'est-à-dire on ne peut pas imposer une langue d'un jour à l'autre comme ça. Et il y a eu de la résistance, c'est-à-dire les professeurs, ils essayaient de faire des cours en catalan quelquefois. Il y a une anecdote intéressante, par exemple, les chorales qui chantaient normalement en catalan, elles avaient la partition qu'ils étaient en train de travailler, mais en dessous, ils avaient des partitions en espagnol. Alors, dès que quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas arrivait, ils mettaient l'autre partition et changeaient de langue.
Merci. Pour ajouter quelques petits chiffres rapidement, les lois qui ont opprimé le catalan ont conduit à une disparition presque totale des livres imprimés en catalan jusqu'en 1946. En 1996, seul un tiers des personnes âgées de 40 à 44 ans savaient écrire en catalan, contre seulement deux tiers qui le parlaient. Chiffre qui tombait à 22% et 65% chez les plus de 80 ans. Pour poursuivre, est-ce qu'on peut peut-être parler de qu'est-ce que ces lois et cette situation signifiaient pour les familles catalanes ?
Oui, là, je l'ai vécu directement. C'était vraiment mon époque. J'avais 14 ou 15 ans quand Franco est mort. C'est-à-dire que j'ai vécu ma première enfance et ma première adolescence sous Franco. Mais c'était déjà les derniers temps de Franco. On peut dire clairement qu'il y a eu deux grandes étapes. L'étape la plus dure, il y a eu un moment où Franco a vu qu'il devait reprendre les relations économiques avec le reste de l'Europe. Il avait absolument besoin de faire voir, de faire semblant que la dictature n'était pas si dure. Et alors, il a commencé à ouvrir un peu, à donner plus de possibilités aux langues et à la liberté en général, un peu plus. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à la maison? Les familles, elles parlaient catalan, normalement. Il y a quelques familles, oui, qui avaient changé de langue, les familles les plus proches au pouvoir. Alors, nous, on parlait le catalan normalement, mais, par exemple, dans mon cas, je ne savais pas que le catalan pouvait s'écrire. Je n'avais jamais vu rien écrit en catalan. J'avais un livre, mais un ancien livre. Je crois que c'est quand même une espèce de dictionnaire. Mais pour moi, c'était une chose comme si c'était du latin absolument archaïque. Et je ne savais pas qu'on pouvait écrire le catalan. Par exemple, je faisais un journal personnel et j'écrivais en espagnol. Quand j'écrivais à mes parents, je leur écrivais en espagnol. Absolument artificiel, parce que querida mama, moi pardon, j'ai jamais dit querida mama à ma mère. Et c'était une situation absolument et très étrange, mais c'était inconscient, c'est-à-dire on prenait ça comme quelque chose de naturel, de normal. Et ce n'est qu'après, quand Franco est mort et quand on a commencé, un peu avant aussi, hein, par exemple, ma sœur aînée, elle étudiait le magistère à l'école normale. Là, il y avait le catalan, hein, il était revenu vraiment d'une façon importante. Elle avait commencé à mener des livres avant la mort de Franco. Bon, et là, on a commencé à se rendre compte que la situation n'est pas normale et qu'il fallait reprendre. Et on s'est mis à étudier le catalan de notre côté. Au dernier temps de Franco, par exemple, il y avait une institution, elle s'appelait délégation d'enseignement du catalan par correspondance. Mmh. Alors, c'était très important parce que, imaginons, on peut recommencer à faire des cours de catalan aux écoles, mais il n'y a pas de professeur. Il n'y avait pas le catalan à l'université. Comment on fait? Alors, ils ont organisé cela, déjà avec la permission de Franco. Ça a été la façon de sauver cette impasse entre l'interdiction et la reprise. Pour les écrivains, par exemple, ils n'avaient jamais appris le catalan à l'école, comment se remettre à écrire en catalan? Pour les professeurs, comment enseigner le catalan si tu ne l'as jamais appris? Et moi-même, j'ai appris le catalan par correspondance. Et ce n'est qu'après que j'ai pu faire les études de la licence de philologie catalane.
Merci, c'est tellement intéressant. Oh là là.
Et donc, à la fin de la dictature, comment le catalan a réussi à regagner du terrain?
D'abord pour ça, parce que cette deuxième partie de la dictature, ils ont commencé à laisser faire quelque chose. Par exemple, il y avait des associations qui pouvaient être légalisées parce qu'elles étaient sous le chapeau de folklorique. Par exemple, on a repris les sardanes. Ça, ils permettaient. Hein, quand c'était folklorique, c'était bien. C'était admissible. Mais quand c'était autoculture, c'était un peu plus compliqué. Il y avait ça, mais il y a aussi l'exil. Quand Franco est arrivé, beaucoup d'intellectuels, ceux qui s'étaient fait le plus remarquer dans les institutions, dans la politique, ils ont dû partir parce qu'ils savaient que s'ils restaient là, ils seraient punis. Et ils ont eu l'idée non seulement de continuer leur œuvre d'une façon normale, mais ils ont pris ça comme une mission. Nous allons conserver et reprendre dès qu'on pourra la littérature catalane. Alors, ils se sont mis à écrire non seulement pour eux, non seulement pour un besoin personnel, mais pour une mission, hein, dire comme ça, une mission culturelle, politique. D'un côté, l'exil. Et il y avait aussi la clandestinité. Ceux qui sont restés ici, en fait, ils ont continué à faire des choses en cachette. Ils faisaient des publications. Ils écrivaient des livres, ils publiaient des livres, mais seulement ils n'étaient pas vendus. Ils faisaient des réunions dans les maisons, ils faisaient des pièces de théâtre dans des maisons particulières. En fait, c'est grâce à ça qu'après la reprise, elle a été possible. Sinon, ça aurait été vraiment très, très compliqué.
Comme quoi, la résistance, c'est
oui.
Essentiel.
Oui.
Est-ce que vous diriez que les choses se sont totalement remises en place depuis? On en est où aujourd'hui concrètement avec le catalan?
C'est compliqué. En fait, juste quand il y a eu la démocratie qui est revenue, il y a eu une loi très importante, la loi de l'enseignement. Tout le Parlement, par unanimité, ils ont voté une loi qui disait le catalan est la langue de l'école et la langue des institutions, et ils ont appelé ça la loi de l'immersion. C'est-à-dire, comme il y a beaucoup plus d'Espagnols que de Catalans dans la rue, dans le public encore, il faut rééquilibrer tout ça. Alors, par unanimité, même les partis de plus de droite, hein, qui maintenant ils sont un peu contre le catalan, eux, ils ont voté aussi la façon la plus logique et la plus cohérente de faire, avec la condition, bien sûr, qu'à la fin de la scolarisation, les élèves, ils maîtrisaient le catalan et l'espagnol au même niveau. Et ça a fonctionné pendant plusieurs années. Mais maintenant, ça s'est questionné par des familles qui veulent qu'il y ait plus d'espagnol, mais aussi par les Catalans même, qui voient que ça n'est pas tout à fait utile. C'est-à-dire, pourquoi ? D'abord parce que ce n'est pas vraiment très appliqué. Il y a des statistiques qui disent que seulement 47% des professeurs qui en principe devaient faire leur matière en catalan la font vraiment toutes en catalan, ou presque toutes, c'est-à-dire moins de la moitié. Il y a aussi le problème d'une baisse de la compétence linguistique en général dans toutes les langues. Ça fait que les élèves, ils n'arrivent pas à maîtriser les deux langues parfaitement. Et il y a encore une autre chose, c'était la proportion d'élèves qui parlent catalan à la maison et ceux qui ne parlent pas. La natalité en catalan est très basse. Et donc, la population, elle augmente avec des gens qui ne parlent pas catalan, n'ont pas le catalan comme langue originale. Quand il y a quelqu'un qui vient de l'extérieur et il est dans un milieu où le catalan est une langue très présente et normale, il l'apprend facilement. Mais sinon, c'est beaucoup plus difficile qu'ils l'apprennent. Alors, cette proportion est un problème. Et l'autre cas, l'autre problème, c'est l'attitude des Catalans qui ont l'habitude de changer de langue dès que quelqu'un leur dit un premier mot. Ou même s'ils ne connaissent pas quelqu'un dans la rue, ils lui demandent quelque chose, ils le font en espagnol. Ils disent qu'ils le font par une question d'éducation, mais c'est juste à l'envers. C'est-à-dire, si tu as quelqu'un que tu ne connais pas, adresse-toi à lui en ta langue. S'il ne connaît pas, tu peux toujours changer, mais essaye au moins. Et il y a des gens, c'est la façon de faire, de dire aux gens, vous êtes les bienvenus, vous êtes ici, je vous parle ma langue parce que je vous accepte dans mon pays. Cette façon de voir, elle est difficile à faire comprendre aux gens.
Et donc pour ceux qui parlent catalan au lycée français, on vous invite à parler catalan entre vous et à même vous entraider à apprendre le catalan et à parler catalan avec vos professeurs. Il y en a beaucoup qui parlent catalan en plus, donc voilà. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir de vous recevoir.
Merci à toi d'avoir traité ce sujet qui est vraiment important pour nous.
Quina canso t'agradaría?
Bien, comme on est sur la revendication, je vais demander la staca d'Aluisiac, qui est en plus l'hymne de l'équipe de rugby de Perpignan.
Super!
Mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar, siset que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.